RTL Info.
Le journal, Myriam Widvert.
Bonjour, Johnny Clegg n'est plus. Le Zoulou blanc s'est éteint hier des suites d'un cancer. Sa musique inspirée des rythmes africains a permis de rapprocher les cultures. Premier semestre en demi-teinte pour le Swatch Group. Le bénéfice et le chiffre d'affaires sont en recul par rapport à la même période de l'année dernière. Il était linebacker des Knights de Neuchâtel en 2011 et est désormais champion de France. En football américain, le Montezan d'origine neuchâteloise Damien Lehmann a remporté le titre avec son équipe des Black Panthers de Thonon-les-Bains. Le soleil est de la partie dans le ciel de la région. Il pourra se cacher derrière quelques cumulus par endroit, mais restera dominant au moins jusqu'à samedi. Il a joué un rôle majeur en Afrique du Sud en faisant découvrir aux personnes différentes cultures et en les rapprochant. Voici les mots du manager de Johnny Clegg dans un communiqué annonçant son décès hier. Celui que tout le monde surnommait le Zoulou blanc a succombé à un cancer à l'âge de 66 ans. Armel Assoumani.
Johnny Clegg, c'était un métissage à lui tout seul. Sa mère, issue d'une famille de paysans juifs, lituaniens et polonais, immigrés en Rhodésie du Sud, devenue le Zimbabwe en 1980, épouse un Anglais. Ses parents divorcés, le petit Jonathan suit sa mère en Afrique du Sud. Enfant blanc dans cette Afrique du Sud pendant l'apartheid, il grandit dans un environnement isolé de toute culture africaine, mais il se lie d'amitié avec le fils du chauffeur de la famille, qu'il initie aux bases de la culture Zoulou. C'est dans cette culture qu'il a par la suite puisé son inspiration pour créer une musique nouvelle où les rythmes africains se marient avec les guitares, les accordéons ou les claviers électroniques.
Johnny Clegg est connu notamment pour son titre Asibonanga, une chanson dédiée à Nelson Mandela qui signifie « Nous ne l'avons pas vu », un hymne anti-apartheid au refrain chanté en langue zoulou. L'homme qui appartenait au groupe Savuka n'a pas cessé tout au long de sa carrière de composer une musique pour le peuple et lutter contre la discrimination en Afrique du Sud. Johnny Clegg a été la tête d'affiche de Festineuch en 2004 et du Chant du Gros au Noirmont en 2010. Des chiffres en retrait pour le Swatch Group. L'entreprise horlogère a présenté ce matin son rapport concernant le premier semestre de cette année. Le résultat opérationnel, le bénéfice et le chiffre d'affaires sont en baisse par rapport à l'an dernier à la même période. Alexandre Rosset.
Le chiffre d'affaires atteint un peu plus de 4 milliards de francs pour Swatch, même s'il est en recul de 3,7% par rapport au niveau solide de l'année passée. Le groupe horloger insiste sur le fait que ce résultat reste très bon. La croissance a notamment été positive en Chine continentale, au Japon et aux États-Unis dans tous les segments de prix. Les ventes à Hong Kong ont par contre pâti des troubles politiques. Concernant le résultat opérationnel, une baisse de 13% est enregistrée en comparaison annuelle. Le bénéfice net s'est lui rétracté à 415 millions de francs, ce qui représente une diminution de 11,3%. De manière globale, les ventes s'inscrivent en dessous de la plus basse estimation des analystes, mais le bénéfice a dépassé les projections.
Pour le second semestre, le Swatch Group s'attend à une croissance robuste, grâce notamment à une demande qui reste bonne. La ministre de la Justice, Karine Keller-Souter, fait examiner une réduction des capacités dans le domaine de l'asile. La fermeture de certains centres fédéraux est discutée. C'est la conséquence du recul des demandes d'asile déposées en Suisse. La conseillère fédérale prendra une décision en septembre. C'est un nom avec lequel il faudra se familiariser. Ursula von der Leyen, 60 ans, médecin, mère de 7 enfants, démocrate chrétienne. L'Allemande succédera à Jean-Claude Juncker le 1er novembre à la présidence de la Commission européenne. Elle a été élue avec seulement 9 voix de plus que la majorité absolue hier soir au Parlement européen. Elle s'installe à Bruxelles pour 5 ans. Est-ce une bonne nouvelle pour la Suisse? L'analyse à Berne de Serge Jubin.
Malgré l'étroitesse de l'élection due à des luttes intestines, l'arrivée prochaine d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne est d'abord une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est une femme courageuse qui a prononcé un discours prometteur en faveur du climat, de l'égalité, de l'état de droit, des conditions salariales et d'une vision plus humaniste de l'asile. Elle est à même d'amener un souffle nouveau sur une Union européenne qui en a bien besoin. Est-ce qu'elle facilitera la relation complexe avec la Suisse? On n'en sait rien. Elle n'y a pas fait allusion dans son discours et dans une berne politique déserte cette semaine, personne pour prendre position. Trois éléments pour tenter de se faire une idée. Elle est favorable à l'unité et à l'égalité de traitement en Europe et certainement peu encline à multiplier les exceptions. C'est très moyennement bon pour la Suisse. Ensuite, c'est une Allemande qui n'est pas issue du microcosme bruxellois. Elle aura peut-être une approche moins idéologique du cas particulier de la Suisse. Ce qui peut apparaître comme le plus réjouissant pour notre pays, c'est le départ du bras droit de Jean-Claude Juncker, le Belge Martin Selmayr, peu favorable aux spécificités suisses. Il s'agira d'observer attentivement qui entourera Ursula von der Leyen à la Commission. C'est certainement là que se trouve la clé de la future relation entre Bruxelles et Berne.
En France, une étape a été franchie concernant le don du sang des personnes homosexuelles. La période d'abstinence sera réduite d'un an à 4 mois dès le 1er février prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de la Santé. Cette mesure est une nouvelle étape vers des conditions de don identiques pour tous, pour tous les donneurs, envisagées à l'horizon 2022. En Turquie, le représentant de Reporters sans frontières accusé de propagande terroriste a été acquitté ce matin par un tribunal turc. Il risquait plus de 14 ans de prison pour avoir participé à une campagne de solidarité pour un quotidien pro-kurde. Bien avant le 21 juillet 1969, nombreux sont ceux à avoir rêvé l'homme se rapprochant de la Lune et à lui avoir fait poser le pied dessus, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou encore la bande dessinée avec le célèbre Objectif Lune de Tintin sorti en 1953. Il y a toujours eu un lien fort entre l'imaginaire de l'humanité et le corps céleste. On en parle aujourd'hui avec Marc Attala, le directeur du musée de la science-fiction La Maison d'ailleurs à Yverdon.
Il y a eu deux exploitations, on va dire, majoritaires de la Lune, dans la fiction et la poésie. C'est-à-dire que vous avez à la fois des récits qui se déroulent sur la Lune, en sachant que dans cette tradition littéraire, la Lune est utilisée, si vous voulez, comme une sorte de miroir déformant des problématiques, elles, très terrestres. Vous avez aussi, alors, un courant peut-être plus intéressant par rapport à la Lune ou à l'imaginaire de la Lune, qui est le courant symbolique ou poétique, c'est-à-dire l'idée que la Lune, qui éclaire l'obscurité, et tout ce qu'elle a d'un peu angoissant, effrayant pour certains, c'est à la fois cette présence bienveillante, cette présence qui nous éclaire dans l'obscurité. Donc elle a une dimension poétique très forte. Et ces deux grandes tendances montrent aussi que la Lune scientifique, celle qui existe telle qu'elle est, n'est pas très importante. Ce n'est pas la Lune qu'on regarde, mais c'est l'être humain à travers un détour sur la Lune que l'on va regarder.
Avant 69, y a-t-il une œuvre que l'on pourrait peut-être mettre par-dessus les autres? Et pourquoi cette œuvre?
Je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, mais je dirais en tout cas un des récits les plus connus littéraire, puis après qui a été adapté au cinéma, c'est évidemment les textes de Jules Verne, hein, d'abord de la Terre à la Lune, puis ensuite autour de la Lune, qui vont être ensuite utilisés au cinéma avec les premiers films de Méliès. Chez Jules Verne, son objectif éditorial, c'est de pouvoir vulgariser la science de son temps pour les petits bourgeois qui vont lire les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Et donc, en fait, lorsqu'il va poster son obus sur la Lune, c'est aussi pour parler de toutes les sciences en pleine effervescence au XIXe siècle, et en particulier l'astronomie, qui permettrait, grâce à la technologie, de pouvoir étendre notre rapport à l'espace. On peut aller plus loin que ce que la Terre nous permet de visiter, parce qu'on maîtrise enfin un ensemble de techniques qui nous permettent de nous affranchir de nos limitations terrestres. Donc je dirais que c'est l'œuvre peut-être la plus culte, plutôt que supérieure, parce que tout le monde a lu, ou en tout cas tout le monde a déjà vu, ces images de Méliès, de cette Lune qui reçoit la fusée, ou même du texte de Jules Verne. Parce que c'est peut-être l'œuvre la plus scientifique aussi. C'est celle qui essaie de couper cette idée que la Lune est utilisée pour refléter l'humain. La Lune est un objet céleste qu'on peut atteindre, point.
L'homme marche sur la Lune, qu'est-ce qui change à ce moment-là?
Étrangement, pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est que du moment où vous avez le monde réel, où l'être humain se pose sur la Lune, les récits de science-fiction, qui sont souvent ceux qui traitent de ce genre de questions-là, on doit avoir ce sentiment que c'est possible. Et donc, du moment où on s'est posé sur la Lune et qu'on s'aperçoit, oh déception, qu'il n'y a rien. Évidemment, c'est plus compliqué d'imaginer écrire un récit de science-fiction qui va se passer sur la Lune. Donc, ce qui va se passer dans la science-fiction post-alunissage, c'est que la Lune va soudainement devenir non plus un objet littéraire qui permet de réfléchir par contraste aux problématiques terrestres, mais va devenir un objet souvent traité de manière ironique. C'est-à-dire qu'en fait, on va y placer des choses dans des récits ironiques. Je pense par exemple au film Iron Sky, hein, où, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui sont partis sur la Lune et qui ont établi une sorte de société décadente sur la face cachée de la Lune. On va voir aussi apparaître des Transformers sur la Lune, hein, dans l'opus des Transformers, qui doit être le 3 ou le 4, qui s'appelle d'ailleurs Dark Side of the Moon. C'est-à-dire que c'est soudainement la face cachée qui va devenir la dépositaire des récits possibles sur la Lune, puisque c'est le seul endroit qu'on ne voit pas, donc c'est le seul endroit encore mystérieux, et donc c'est le seul endroit où on peut encore meubler avec d'autres choses.
Marc Attala au téléphone de David Sanchez. Et vous pouvez retrouver notre série dédiée aux 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune sur notre site internet rtn.ch.
Il est 12h25.
Sport.
Un ancien joueur de Neuchâtel sacré champion de France de football américain. Formé aux Knights, Damien Lehmann a remporté le titre avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Il y a deux semaines, les Panthers ont battu les Cougars de Saint-Ouen 24-7 pour remporter le casque de diamant qui récompense le vainqueur de la saison. Pour l'ancien joueur neuchâtelois, c'est l'aboutissement d'une belle saison, même s'il n'a pas été épargné par les blessures. Il aime d'ailleurs aller au contact, en témoigne son poste sur le terrain. Damien Lehmann.
Et linebacker, c'est un poste de défense. Donc, le football américain, il y a deux escouades, c'est l'attaque et la défense. Donc, moi, je suis camp défense. Disons que il y a les D-line qui sont là pour mettre une pression sur ceux qui protègent le quarterback. Et il y a les linebackers qui sont là pour jouer le jeu au sol, pour défendre le jeu au sol, défendre le jeu à la passe court. Donc, ça, c'est mon poste. Et après, vous avez les DB qui sont derrière pour protéger des passes. Et alors moi, je suis un peu une version un peu hybride. Il faut que j'aime aller au contact avec les gros, mais en même temps, il faut que je sache encore me déplacer sur le terrain. C'est des positions et des physiques un peu hybrides qui tournent entre les 1m80 et 90 et puis entre les 100 et les 120 kilos. Mais oui, je suis qu'en défense. Je ne vais jamais en attaque. Moi, le ballon, ce n'est pas trop mon truc.
Au niveau de l'effectif, vous êtes combien ?
Sur une feuille de match, on peut être 45. À Thonon, on se permet de garder que les joueurs élites. Donc les joueurs de team réserve ou tout, on les prend pas avec nous en voyage. On va être 35 joueurs. Mais 35 joueurs qui sont capables de jouer.
Des propos recueillis par Yann Esler. L'équipe de Suisse avec Damien Lehmann dans ses rangs aura aussi plusieurs échéances d'ici les prochaines semaines, dont deux matchs de qualification pour les Européens contre l'Autriche et l'Italie. Les cyclistes du Tour de France se remettent en selle. Après la journée de repos d'hier, les protagonistes de la Grande Boucle reprennent la route aujourd'hui pour une étape de transition longue de 167 km entre Albi et Toulouse. Elle doit permettre aux sprinters de se mettre en vitrine à la veille d'attaquer les Pyrénées. Sur la route du Tour, la présentation de cette 11e étape est signée Clément Brossard.
D'une terre de rugby à une autre, après une journée de repos, les coureurs reprennent leur route vers les Pyrénées, départ sur les bords du Tarn, à Albi pour cette 11e étape longue de 167 km. Un tracé idéal pour les grosses cuisses qui devraient s'expliquer non loin du Palais des Sports de Toulouse. C'est la 18e fois que la ville du champion de France de rugby accueille la Grande Boucle. La dernière, c'était le 12 juillet 2008. Le Britannique Mark Cavendish s'imposait juste devant son coéquipier Gérald de Siolek et le Français Jimmy Casper. Trois hommes lancés tels des ailiers sur leur côté. Mais avant de tenter ce dernier sprint vers la terre promise, l'équipe Tour de France s'expliquera une première fois à Gaillac, une commune marquée au fer rouge par la rugby mania, qui a connu son heure de gloire avec Bernard Laporte, Vincent Moscato et plus récemment Geoffrey Palis. Le 18 juillet 2013 également, le Tour de France y pose la ligne de départ de son contre-la-montre, une épreuve remportée haut la main par l'Allemand Jan Ullrich devant Lance Armstrong et Alexandre Vinokourov. Aujourd'hui encore, d'autres grands noms de la pédale tenteront de mettre la suprématie du ballon ovale dans la ville rose. Entre parenthèses.
En football, c'est l'un des gros transferts de l'été qui se profile. Matthijs de Ligt va rejoindre la Juventus. Le défenseur néerlandais de 19 ans est arrivé hier soir à Turin. Le club italien devrait lâcher 70 millions d'euros pour l'acheter à l'Ajax Amsterdam, ce qui en ferait le troisième joueur le plus cher de la Juve. Et le HC Lugano a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club de hockey sur glace de National League annonce aujourd'hui l'arrivée du Canadien Ryan Spooner. L'attaquant de 27 ans, 45e choix de la draft 2010 de NHL, s'est engagé pour une saison.
Il est 12h29, on prend quelques nouvelles du ciel avant de vous laisser avec le meilleur de la musique sur RTN. Alors oui, il y a bien quelques voiles d'altitude, il y aura bien quelques cumulus sur les crêtes cet après-midi, mais aucune activité pluvio-orageuse. C'est une journée bien ensoleillée qui se poursuit dans le ciel de la région, avec des températures qui grimpent. 23 degrés cet après-midi à la Chaux-de-Fonds et au Locle, 25 degrés dans le Val-de-Rue, 26 dans le Val-de-Travers, et même 27 degrés à Neuchâtel, Payerne et Yverdon. Pour demain et vendredi, le même programme, avec des passages nuageux un peu plus étendus, toujours pas de pluie au programme. Et puis les températures qui grimpent, 23 à 28 degrés, tant demain après-midi que vendredi après-midi.